ici ce soir, j'allais dire grâce, mais oui, grâce à la coordination des intermittents et au SFA, le syndicat des artistes CGT, pour nous mobiliser, mais en même temps, et ça sert à ça aussi les mobilisations, pour réfléchir ensemble sur une question assez importante, et pour y répondre, nous avons à la fois une magistrate et une philosophe, et des militants, qui est celle de la criminalisation des luttes, ou de la pénalisation des luttes, ou du mouvement social. On va bien travailler cette question. Donc je résume là très très rapidement l'affaire, puisque l'idée n'est pas de rentrer dans le détail de ce procès qui va avoir lieu le 28. On avait eu une comparution il y a quelques mois, au printemps. Je me souviens que j'étais à Bobigny, on était très nombreux. Là, il va falloir à nouveau être nombreux. Alors, personnellement, je n'y serai pas, je suis désolée, mais bien qu'intermittent, c'est-à-dire dire travailleur précaire, tout de même, ce jour-là, je travaille. Donc, je ne serai pas à vos côtés. Mais j'ai tenu donc à être là ce soir, et en tant que syndicaliste aussi, voilà, je voulais dire ça parce que je vais animer, mais j'aurais peut-être des petites choses à dire aussi. On regrette l'absence, il faut le dire, parce que d'abord ils se sont excusés, mais parce que ça montre bien ce que nous voulons comme débat aujourd'hui pour continuer cette mobilisation et pour sensibiliser à cette question politique, et on le dira très précisément avec Marie-José Monzin, qui est cette pénalisation ou criminalisation des luttes sociales. On regrette l'absence d'Émile Sanchez, qui est un des anciens porte-parole de la Confédération paysanne, et qui a lui aussi sur les épaules de nombreuses accusations, condamnations, notamment pour les faucheurs volontaires. En remplacement, on a essayé d'avoir, il a tout fait pour venir, donc là c'était la Confédération paysanne, on a essayé d'avoir Charles Haraud, qui lui, c'est la CGT chômeur à Marseille, et donc il n'a pas pu monter, mais on le regrette aussi parce que lui aussi il a amené à 13 ou 14 menaces de procès, et en même temps, ça aurait été intéressant de l'avoir, mais ça c'est une question, mais je la dis juste en passant, parce qu'on va beaucoup parler de juridique aussi ce soir, c'est celui qui, avec son avocate Elisabeth Sanguinetti, ont réussi à faire au tribunal gagner ce qu'on a appelé les recalculés. C'est-à-dire qu'ils ont eu une victoire, lui qui est un homme qui fait plutôt tous les jours dans la lutte des sans-papiers, des sans-abri et des chômeurs et des précaires, fait des coups plutôt du genre on occupe des appartements, etc. etc. On empêche des expulsions, toutes ces choses-là. Il a aussi, avec ce mouvement, pu gagner une cause sociale devant les tribunaux. Ça aurait été intéressant. Voilà, je m'arrête là pour la présentation. Et je vais tout de suite passer la parole peut-être à Évelyne Sirmarin, qui est magistrate, qui a été présidente du syndicat de la magistrature, qui aujourd'hui est coprésidente de la Fondation Copernic, qui réfléchit dans l'articulation justement ces questions à la fois politiques, économiques, sociales et sans doute juridiques. Donc, je vais te passer la parole pour faire un petit peu le point. Est-ce qu'on a raison de parler de criminalisation? Alors, j'en oublie d'autres. Il y avait ce garçon de la CGT aussi, des ports, qui est vers Le Havre aussi, qui a été condamné et même emprisonné. On a eu beaucoup de militants syndicaux et syndiqués emprisonnés pour des actions syndicales. On craint d'en avoir de plus en plus, évidemment, à Cherbourg, c'est Cherbourg. Et il y avait eu, il y a 4-5 ans, une grande manifestation à l'initiative de la CGT à l'époque, place du Trocadéro, sur cette question-là. Depuis, on n'a pas vu de grande mobilisation. Pourtant, depuis, il y a eu des arrestations, des condamnations, des gens encore emprisonnés. Donc voilà, où en est-on de ce point de vue-là du côté de la magistrature ?
C'est pas comme juge hein, que j'interviens, c'est plutôt comme membre du syndicat de la magistrature, puis surtout de la fondation Copernic, hein, parce que j'ai un peu une obligation de réserve comme juge. Alors, on va dire que, bon voilà, j'interviens parce que j'ai une soi-disant compétence juridique, hein, puisque c'est mon travail depuis 25 ans, et que je fais du droit pénal, donc j'ai été juge d'instruction pendant 6 ans ces dernières années, puis je fais de l'audience correctionnelle, donc je vois quand même effectivement comment a évolué le droit pénal notamment et la manière dont la justice hein, se saisit du droit pénal depuis 20 ans. Alors les trois points que je voudrais aborder, c'est d'abord l'état du droit, à savoir que il y a dans notre droit maintenant, il y en avait de toute façon déjà dans le code pénal de 1810, mais il y en a de plus en plus, hein, il y a énormément de moyens de pénaliser le mouvement social, à savoir qu'on ne peut pas parler à mon avis de criminalisation, parce que en termes juridiques, criminalisation signifie cour d'assises, crime et peine criminelle, et c'est absolument pas à quoi ça correspond, hein, les infractions qui sont reprochées aux militants des mouvements syndicaux, sociaux, c'est pas des crimes, hein, c'est des délits. Donc c'est pour ça que je préfère parler de pénalisation, parce que qui dit délit dit tribunal correctionnel. Et ce qu'on leur reproche, alors bon, à l'occasion des manifestations, assez souvent, ce qu'on leur reproche, bon, ben, c'est des infractions de rébellion, d'outrage à agent, souvent ça va ensemble, hein. À savoir que, bon, ça c'est pas une infraction très grave, mais c'est quand même un délit, hein. Quand c'est en réunion, rébellion plus outrage à agent, c'est-à-dire, eh bien, quand on manifeste, a priori on est en réunion, on est puni d'un an d'emprisonnement, mais ça c'est la loi, hein. Maintenant c'est pas la pratique, hein. Quelqu'un qui a pas de casier judiciaire, il va pas avoir un an d'emprisonnement, mais c'est quand même ce que la loi prévoit, hein. Donc outrage, c'est le fait de donner des noms d'oiseaux à un dépositaire d'autorité publique, comme on dit en droit. Et rébellion, c'est le fait de manifester un minimum de violence pour lui résister. C'est-à-dire, par exemple, se traîner par terre, c'est de la rébellion. Se traîner par terre pour ne pas qu'on vous mette des menottes, c'est de la rébellion. Alors en principe, ça va ensemble. Hein. Qui dit outrage, en principe... un dépositaire d'autorité publique, donc agent de police, vigile de la RATP, contrôleur de la SNCF, etc., hein, gendarme, etc. Souvent, quand ces personnes disent qu'on s'est rebellé, souvent ils disent qu'on les a outragés également. Hein, bon. Alors ça, c'est l'infraction reine, hein, de la pénalisation du mouvement social. Après, il y a beaucoup les violences volontaires. Les violences volontaires, ça c'est des infractions qu'on voit beaucoup souvent lors des manifestations. Donc on reproche aux manifestants d'avoir commis des violences volontaires encore une fois sur dépositaire d'autorité publique. Ça c'est 3 ans d'emprisonnement qui est encouru et 4 500 € d'amende. Sauf que quand c'est en réunion, c'est 5 ans d'emprisonnement qui est encouru. Alors ça c'est des infractions très 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 courantes. Le problème, si vous voulez, c'est que souvent elles sont combinées avec les infractions de destruction, dégradation volontaire. Et ça, c'est des infractions, c'est pareil, c'est 5 ans encourus dès que c'est de la réunion. Donc ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que le code pénal, dès qu'on est en réunion, c'est-à-dire en état de manifestation, d'emblée, la peine encourue est de 5 ans. Ça aggrave tout. La réunion. Parce que le code pénal considère que quand une personne seule commet une infraction, c'est moins grave que quand elles sont plusieurs. Donc voilà un petit peu le problème d'emblée, hein, c'est que les peines encourues sont quand même bien supérieures. Après, ça c'est le code pénal d'origine. C'est le code pénal qui, le nouveau code pénal de 1993, mais. À cela s'est ajouté d'autres problèmes liés à la pénalisation, à savoir évidemment tous les fichiers. Hein. Donc le fichier des empreintes génétiques qui est un truc assez nouveau puisqu'il a été créé par Daniel Vaillant, hein, ministre socialiste en 2001. Mais il a été créé, mais il n'était pas prévu pour beaucoup de choses, c'était plutôt pour des infractions extrêmement graves. Et puis surtout quand on refusait d'être fiché, il n'y avait pas de délit, on refusait, et puis voilà. Mais après, Dominique Perben est arrivé, hein, garde des Sceaux, Et dans une loi de 2004, il a beaucoup aggravé la situation des personnes qui ont affaire à la police, puisque avec ce fichier des empreintes génétiques, c'est pas Perlin, c'est Sarkozy, hein, c'est la loi de 2003 sécurité intérieure, pardon. C'est la loi de sécurité intérieure donc de Nicolas Sarkozy de 2003 qui a décidé que ce fichier des empreintes génétiques, il allait s'étendre à pratiquement toutes les infractions qui pouvaient être reprochées à des gens placés en garde à vue. Et c'est le problème qui se pose, c'est que on est quand même sur un fichier qui maintenant permet, quand une personne est placée en garde à vue, donc pas condamnée, hein, même pas poursuivie, pas encore poursuivie, encore moins condamnée, quand une personne est placée en garde à vue pour des petits délits style, alors évidemment, ce que je vous disais tout à l'heure, dégradation en réunion, recel, vol en réunion, violence volontaire en réunion, toutes ces infractions qui peuvent être commises à l'occasion d'une manifestation, d'une occupation d'usine ou d'un plateau de télé, etc. Toutes ces infractions-là, la loi Sarkozy sécurité intérieure prévoit que dès qu'on est en garde à vue, l'officier de police judiciaire qui vous place en garde à vue prend votre ADN. Et donc vous êtes fiché. Alors ça c'est très embêtant parce que vous êtes fiché pendant 20 ans. Et même si vous êtes mineur, et si vous êtes condamné, vous êtes fiché pendant 40 ans. Ça, c'est la loi sécurité intérieure. Alors, la question, effectivement, c'est que très très vite, on a un fichier qui s'est constitué. Là, on est à 50 000 empreintes ADN. Alors, vous crachez sur une sorte de buvard, et puis on fiche à écurie au grand grand fichier policier national qui s'appelle le FNAEG, le fichier national des empreintes génétiques. Le problème, c'est que donc, après, pour se faire enlever de ce fichier, par exemple, une hypothèse où la personne est placée en garde à vue, mais elle n'est pas poursuivie, elle n'est pas condamnée, parce qu'il apparaît dans la procédure que finalement elle n'avait absolument rien fait, donc on la poursuit pas, on la condamne pas. Mais elle reste quand même fichée. Et la procédure prévoyant un effacement du fichier national d'empreintes génétiques est une procédure complexe et qui n'aboutit la plupart du temps pas du tout, parce qu'il faut écrire au procureur de la République, il a 6 mois pour répondre, s'il n'est pas d'accord pour vous enlever, ce qui est le cas à Paris. Je crois qu'à Paris, dans une année, il y a 2 ou 3 personnes qui réussissent à se faire enlever du fichier national des empreintes génétiques. Alors vous imaginez, hein, sur l'ensemble des poursuites à Paris, c'est rien du tout. Donc la procédure après, il faut saisir le juge des libertés, etc. Enfin bref, c'est très très complexe. Donc le problème, c'est que les gens qui sont fichés, ils y restent la plupart du temps. De toute façon, ils ignorent la plupart du temps le droit de se faire effacer de ce fameux fichier des empreintes génétiques. Et c'est ça qui est un petit peu le scandale ces dernières années, c'est que au-delà des condamnations, de la pénalisation, il y a ce fichage qui pose énormément de problèmes. Et puis il y a évidemment le fichage STIC, hein, le système de traitement des infractions constatées. Alors ça c'est bien autre chose. C'est pas des empreintes génétiques, hein, c'est un fichier policier. Alors c'est pareil, hein, ce fichier a été légalisé par Daniel Vaillant et il a permis de ficher un très très grand nombre de personnes dès qu'elles sont placées en garde à vue. Alors ça c'est toutes les infractions pratiquement, et vous êtes fiché donc à la police ou à la gendarmerie, et là il y a 6,5 millions de fiches, hein. Le problème c'est que il y a beaucoup d'erreurs. D'après la CNIL, la Commission Nationale Informatique et Liberté, ils ont fait une sorte de sondage, hein. Chaque année ils font un rapport, il faut aller sur le site de la CNIL pour voir ça, et ils ont fait un sondage. Alors ils prennent par exemple 1000 fiches, puis ils regardent ce qui est fiché correctement ou pas. Le problème, c'est qu'il y a des erreurs. Alors, il y a 54% d'erreurs. Et les erreurs, c'est assez fâcheux, puisque c'est des gens qui sont, par exemple, victimes, qui sont fichés comme auteurs. Par exemple, vous êtes victime d'un vol dans votre cave, vous allez porter plainte au commissariat, et vous êtes fiché comme auteur. C'est embêtant. Donc, voilà. Ça, c'est des fichiers policiers. Ça n'a fait que grandir et prospérer. Puisque donc, comme je le disais, on est quand même à 6,5 millions de fiches de personnes mises en cause. Et c'est très embêtant pour les gens, parce que après, quand ils veulent chercher du travail, notamment bon, les jeunes, hein, qui cherchent, bon, quand ils n'ont pas beaucoup de diplômes, etc., beaucoup de jeunes cherchent du travail dans la sécurité, hein, vigile, etc. Et vous ne pouvez pas trouver de travail quand vous êtes fiché au STIC. Dans ce fichier policier, là, le système de traitement des infractions contestées, c'est pas possible, hein, parce que le préfet demande à la police si les gens sont fichés ou pas quand ils veulent être agent de surveillance, vigile, etc. Et si vous y êtes, vous ne pouvez pas avoir de travail. Et c'est le cas de beaucoup de jeunes, hein, de Roissy, par exemple, la plateforme aéroportuaire de Roissy ou d'Orly, mais surtout Roissy, où il y avait beaucoup de gens du 9-3, de jeunes qui travaillaient sur toute la zone de sécurité de Roissy et qui se sont vus retirer leur agrément, donc qui ont perdu leur travail. Donc bon, voilà, ça a des conséquences quand même extrêmement concrètes. Alors pour finir sur ce plan un peu juridique, après tous ces fichages, hein, le STIC, le fichier des empreintes génétiques, sont apparus évidemment tout un tas d'infractions liées au séjour des étrangers. Alors ça, ça a été bien aggravé par les trois dernières lois sur les étrangers de 2003, deux lois en 2003 sur l'asile, l'immigration, une loi en 2006. Donc vous avez vu qu'on va reprendre encore une loi, hein, pour éviter les regroupements familiaux, donc ça fera la quatrième loi depuis seulement 4 ans. Ces lois sur les étrangers ont considérablement aggravé une infraction qui est quand même un peu un délit de la solidarité, c'est l'aide au séjour des étrangers. C'est-à-dire que le fait de permettre à un étranger de séjourner en France, de tenter de l'aider, de faciliter son séjour en France, etc., c'est une infraction d'aide au séjour irrégulier, c'est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Alors, ce qui est très très ennuyeux, c'est qu'évidemment, il y a des militants qui ont été poursuivis, hein, des militants de la CIMAD, des militants de foyers d'accueil des étrangers, etc. Cette infraction donne lieu vraiment à des poursuites qui sont très très inquiétantes. Et notamment, ça a été aggravé par la loi Perben 2, dite loi criminalité organisée, puisque à partir du moment où c'est plusieurs personnes qui se groupent pour aider des étrangers, c'est considéré comme une bande organisée. Et là, on a tout un tas de mesures assez exceptionnelles, notamment la garde à vue de 2 jours normalement peut passer à 4 jours. On a un avocat seulement à la 72e heure de garde à vue et pas dès la première heure et à la 24e heure, etc. Donc les conditions de garde à vue, les conditions de poursuite sont extrêmement drastiques, hein, et beaucoup plus dures que les conditions normales. Ça, c'est les infractions. Très vite, sur quel terrain ça se joue? Alors, sur quel terrain ça se joue historiquement? Toute cette pénalisation des luttes collectives, elle s'est beaucoup jouée évidemment sur le terrain, d'abord des droits civils et politiques, et ensuite sur les questions des luttes sociales du travail. Et ça a un petit peu changé ces derniers temps, puisqu'on n'est plus exactement pour les mêmes objets de lutte, quoi. Alors, le droit civil et politique, au départ, ce qui a été beaucoup pénalisé, évidemment, notamment pour les femmes, c'est quand elles luttaient pour leur droit de vote, hein, qui a été acquis quand même très très tard en France, à partir de 1946 seulement. Et il y a eu donc également le droit à l'avortement, hein, qui a donné lieu à beaucoup de poursuites, puisque c'était vraiment des mouvements de désobéissance citoyenne, hein, des médecins, dans le cadre du MLAC, avortaient des femmes alors que le droit à l'avortement n'a été possible, l'avortement n'a été permis en France qu'à partir de 1972, hein, avec la loi Bell. Donc auparavant, c'était un vrai mouvement de désobéissance civique, puisque les médecins qui avortaient étaient totalement hors la loi, sans compter évidemment les femmes qui avortaient, etc. Donc ça a été, dans un premier temps, l'obtention donc de droits civils comme le droit à l'avortement, comme le droit de vote, bon, beaucoup évidemment en matière de droit du travail, hein, où vous avez eu des luttes collectives pendant toute la fin du 19e et le 20e pour obtenir tout simplement le droit de grève. Et c'était à cette occasion que des poursuites judiciaires étaient quand même beaucoup engagées. Ces derniers temps également, hein, lors des luttes lycéennes, lors de la lutte évidemment contre le CPE, un certain nombre de manifestations ont donné lieu à beaucoup de poursuites. Bon, on ne va pas revenir en détail là-dessus, mais c'est vrai que, notamment lors des mouvements des banlieues en novembre 2005, ça a quand même été des poursuites extrêmement lourdes qui ont été engagées contre ce mouvement dans les banlieues, avec des condamnations très très lourdes, hein, des condamnations bon, pour des feux de poubelle, facilement, avec des gens qui n'avaient pas de casier judiciaire, hein, des jeunes qui n'avaient pas de casier judiciaire, facilement 3 mois, 4 mois, 5 mois d'emprisonnement. Hein, je me souviens à Toulouse, hein, quelqu'un qui avait montré ses fesses à un CRS, donc 3 mois d'emprisonnement ferme, alors que c'était quelqu'un qui n'avait pas de casier judiciaire. Et ça, pendant les mouvements des banlieues, ça, on a remarqué vraiment cette justice qui fonctionnait d'abord à la chaîne, hein, jour et nuit, notamment à Bobigny, tenait des audiences jour et nuit, et puis elle était extrêmement sévère et extrêmement répressive. Et alors, ce que je trouve intéressant ces dernières années, c'est que au-delà des droits sociaux, ce mouvement de pénalisation s'attaque maintenant à des militants quand même un petit peu d'un autre ordre, sur trois terrains, je crois. Le terrain d'abord, finalement, bon, de la, du droit des étrangers, où le mouvement Réseau Éducation Sans Frontières est en train quand même de subir de plus en plus une certaine pénalisation. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais enfin, des procès sont en cours. Hein, et à chaque fois, les gens sont poursuivis donc, pour aide au séjour irrégulier des étrangers ou entrave à la circulation d'un aéronef. Enfin, vous imaginez le ridicule de l'infraction. Entrave à la circulation d'un aéronef, c'est-à-dire d'un avion, puisque le droit ne peut pas parler d'avion, mais parle toujours de choses comme... pour dire une voiture, on dit véhicule terrestre à moteur. Une partie du droit est quand même tout à fait ridicule, et ce qui fait que les gens ne comprennent pas, évidemment. Donc, entrave à la circulation d'un aéronef, c'est une infraction qui est absolument stupide, puisqu'on imagine les gens empêcher les avions de circuler, etc. Ça, c'est simplement se mettre dans un avion, voir qu'un étranger est menotté, qu'on l'empêche évidemment de crier et protester contre cet état de fait, donc les expulsions d'étrangers. Alors il y a quand même pas mal de poursuites. Ce qui est un peu inquiétant, c'est que dernièrement, il y avait eu une jeune femme qui avait obtenu une relaxe à Bobigny, très très dernièrement, là, au mois de septembre. Le tribunal avait jugé que, elle répondait à une sorte d'état de nécessité, voyant un étranger ligoté... bâillonnée par des policiers dans un avion, elle s'était portée à son secours. Bon, elle avait été relaxée là début septembre par le tribunal de Bobigny. Moi, ce que je trouve inquiétant, c'est que le parquet a fait appel, et donc on va avoir un procès en appel à nouveau contre elle. Et ça, beaucoup de jugements de relax dans cette matière-là. Dès qu'il y a une relax, le parquet fait appel et on revient donc devant la cour d'appel, où souvent les cours d'appel condamnent. Hein. Autant parfois les tribunaux de première instance, c'est-à-dire les tribunaux de grande instance, peuvent relaxer, mais autant quand ça va devant une cour d'appel, à chaque fois les gens sont condamnés, parce que ça tient un peu à la hiérarchie judiciaire, qui est souvent beaucoup plus sévère en cour d'appel qu'en première instance. Alors, ça c'est le terrain du droit des étrangers. Ce qui est inquiétant quand même, c'est que... un certain nombre de maires sont menacés actuellement d'être poursuivis pour faux, pour usage de faux, etc., parce qu'ils font des parrainages dans le cadre du réseau Éducation Sans Frontières, et qu'on leur reproche de délivrer, par exemple, des cartes bleues. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais c'est vrai qu'il faut quand même craindre que des maires soient sérieusement poursuivis, donc le terrain du droit des étrangers, le terrain, bien évidemment, des OGM, hein, où c'est vrai qu'on a des relaxes en première instance, on a eu des relaxes à Orléans, on a eu des relaxes ailleurs pour les faucheurs volontaires. Malheureusement, à chaque fois que ça va en cour d'appel, les gens se retrouvent condamnés, avec toujours le même système de poursuite, hein, ou des comparutions immédiates, qui est une procédure extrêmement expéditive, où les gens sont placés en garde à vue pendant 2 jours. Ils ont beaucoup de mal à trouver un avocat comme ça dans les 2 jours, parce que d'abord, eux, ils sont en garde à vue, donc c'est la famille, c'est les proches qui doivent chercher un avocat. C'est très difficile de défendre quelqu'un dans les 2 jours sans beaucoup d'éléments, parce que ce sont des procédures strictement policières qui sont faites, et il faut que l'avocat puisse établir devant le tribunal, donc après 2 jours de garde à vue, puisse avoir suffisamment d'éléments de preuve, soit établissant que la personne n'est pas coupable, soit qu'elle a des motifs légitimes, etc. Donc c'est vraiment pas du tout facile, hein, pour la défense, dans le cadre des comparutions immédiates, de défendre les gens. Et ces procédures expéditives de comparution immédiate sont utilisées volontairement par le parquet, parce que les gens sont jugés de façon très très rapide et ont beaucoup beaucoup de mal donc à se défendre. Ou alors c'est des volontés de la part du parquet de toute façon de poursuivre toute personne qui s'est fait été attrapés, on ne sait pas vraiment comment. Il y a des gens qui sont poursuivis, il y en a qui ne sont pas poursuivis dans le cadre de procédures dites de citation directe. Alors là, c'est pareil, parfois les gens en première instance obtiennent des relaxes, c'était le cas d'Orléans en matière d'état de nécessité, mais ils sont condamnés dans la cour d'appel, je finis. Hein. Le troisième terrain qui est un terrain vraiment tout à fait nouveau, c'est ces fichages génétiques dont je parlais tout à l'heure. Demain, je vais aller à Grenoble. Il y a des gens qui s'appellent des contreplaquistes qui ont changé les plaques de rue à Grenoble, hein, qui ont par exemple remplacé la plaque de rue de l'avenue Thiers par une plaque de rue qui s'appelle avenue du Temps des Cerises ou la Commune de Paris. Bon, ils ont fait ça sur 6-7 plaques de rue dans Grenoble. Ils se sont fait interpeller. Ils sont poursuivis donc pour dégradation de biens publics. Vol de plaques de rue et dégradation de biens publics. Donc, ils se sont fait condamner, bon, en première instance avec une dispense de peine, bon, c'est pas bien méchant, mais quand même, ils se sont fait condamner, et surtout fichés, donc, au fichier national des empreintes génétiques. Et le problème, c'est que, dans un premier temps, la cour d'appel de Grenoble a considéré qu'ils n'avaient pas à être fichés. Mais le parquet, une fois de plus, a fait appel, le procureur général, ils vont se retrouver donc quand même certainement fichés. Donc vous voyez, ce troisième terrain est un terrain tout à fait important, les gens qui refusent d'être fichés dans ce fameux fichier des empreintes génétiques, parce que ça, je crois que c'est un mouvement très très important, parce que c'est là le sentiment quand même que malgré tout, c'est une atteinte considérable aux libertés de se retrouver dans tous ces fichiers avec la vidéosurveillance, etc. Donc c'est des chances. Que je voulais simplement dire, c'est que je crois qu'on est passé de terrain de lutte assez classique, hein, les luttes politiques, les luttes sociales, où il y avait ces mouvements de résistance, de manifestation, à l'occasion desquels des infractions étaient éventuellement commises et les gens étaient ou poursuivis ou pas, et ou condamnés ou pas. On est passé historiquement à un terrain qui est très très nouveau, la défense du droit des étrangers, les fichages génétiques et les OGM. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait récent depuis 10 ans, comme si les libertés individuelles et le droit à la santé étaient quelque chose qui nécessite une résistance citoyenne plus que les luttes sociales actuellement.
Merci. Alors, Marie-Josée, on a parlé des pénalisations, des droits des affaires, mais pénalisation des luttes. Moi, je parlais de criminalisation. Donc, je sais que tu as envie de partir sur ces mots en tant que philosophe et de réagir à partir de là pour essayer de penser ces questions-là de manière politique, notamment.
Bonsoir, merci. Une première chose en vous écoutant, parce que ça me tout à fait passionné, c'est à propos de votre conclusion, quand vous dites que, au fond, ça ne résiste pas, l'appareil judiciaire. C'est ça qui me trouble beaucoup. C'est quand, dans un pays, c'est tout un appareil qui intègre, incorpore et suit sans mot dans une sorte de soumission, qui va peut-être même, dans bien des cas, contre une éthique familiale liée aux droits des personnes, au respect du voisin, etc. Et qu'en fait, au niveau de la vie publique, quelque chose se défait éthiquement, qui fait que le corps, le pouvoir judiciaire, est en servitude par rapport à un appareil politique dont le but est celui non seulement de la pénalisation par la voie judiciaire, mais de ce que j'ai appelé tout à l'heure, quand on se préparait à parler, de l'incrimination générale des citoyens.
Enfin, j'attendais ça depuis au moins 20 minutes sans du tout.
Non, mais ça
a le débat parce que ça faisait.
C'est la suite.
Merci pour cette liberté ouverte un petit peu.
Mais je me suis sentie très libre dès que j'ai écouté notre ami. Je trouve au contraire que ce qui a été apporté comme information sur ce qui se passe dans l'appareil judiciaire est la preuve évidente que c'est le tissu social tout entier qui est en train de fléchir sur des droits fondamentaux, sur le respect du voisin, sur l'accueil à l'autre, sur des choses. Et les gens acceptent, se soumettent. Comme il se trouve qu'en ce moment je relis ce vieux grand classique qui est le livre de Klemperer sur la langue du Troisième Reich, et où il raconte dans son journal de quelle façon il voyait fléchir le voisin, l'ami, l'intellectuel, l'intelligence, la femme, l'enfant. Tout d'un coup, on discute, et au milieu d'une conversation la plus innocente qui soit, de la désapprobation du nazisme la plus évidente qui soit, une phrase tombe, et on sait que ça y est. Le venin est là, le poison est répandu. Ce qu'on croyait son ami ne l'est plus. Il devient l'adversaire. Donc, c'est cette chose qui, cette incrimination créée par le système qui m'intéresse. Je me trouve là aussi auprès d'Aline, si je le sais, parce que dès qu'il y a eu la crise des intermittents, ce qu'on a appelé comme ça il y a quelques années, je me suis sentie immédiatement fort concernée, travaillant sur les images et sur la question du spectacle, et qu'on était en train de se préparer à avoir un référendum dans l'année qui suivait, deux années qui suivaient, pour préparer là une mobilisation encore plus grande contre les dérives et la débâcle de ce capitalisme libéral sauvage, et que pour moi la crise des intermittents faisait éminemment symptôme, parce qu'elle parlait des deux choses fondamentales qui nous écrasent et nous aliènent et nous rendent de plus en plus misérables et impuissants chaque jour, l'argent et le spectacle. On parlait d'argent et on parlait de visibilité et on parlait de spectacle. On parlait d'argent, de mise en scène, on parlait d'argent et de ce qu'on nous donne à voir. Et de ce coup, bien sûr, nous avions eu Berlusconi déjà faire des travaux pratiques dans un pays voisin, mais il était clair que se mettait en place en Europe de façon sporadique et en France d'une façon très méthodique et je trouve même plus inquiétante presque qu'en Italie, quelque chose de l'ordre que j'appellerais aujourd'hui une dictature, en y mettant peut-être pour l'instant des guillemets, parce qu'on a eu trop tendance, en décrivant le système ou le régime sous lequel nous vivons, en disant ça devient fasciste, c'est comme chez les nazis, enfin j'évoquais Klemperer, c'était pas pour dire que la dictature actuelle était nazie, loin de là, c'est pour dire que nous avons du mal à la nommer, que quelque chose de l'ordre du pouvoir, qui nous fait dire, par, je dirais presque par triste commodité, c'est fascisant, ou c'est nazi, ou c'est... Parce que nous avons du mal à savoir de quel ordre est cette dictature. Comment on va la nommer? Elle n'est pas une dictature militaire, elle n'est pas une dictature de grande crise économique, elle n'est pas une dictature à la veille d'une guerre, bien que la guerre soit endémique partout, mais tout de même, ce qui se passe dans notre pays, qui s'appelle la France, c'est un pays en paix, prospère. Alors de quel ordre est ce pouvoir qui grignote chaque jour, nous venons de l'entendre pour le pouvoir judiciaire, ceux qui sont dans les syndicats, ceux qui sont comme moi dans la recherche, l'éducation nationale, la culture, etc., la création, voient chaque jour ce grignotage progressif de tout ce qui faisait, au fond, les grands acquis des Lumières, de tout ce qui a fait la grandeur des droits de l'homme, de tout ce qui a fait l'objet des luttes syndicales, de tout ce qui a fait les grandes luttes du 19e et du 20e siècle pour que les travailleurs se battent pour ce qu'on appelle la démocratie. Et on ose dire que nous vivons dans une démocratie. Là, je dis, c'est vraiment... D'abord, la démocratie n'est pas un régime de gouvernement, c'est pas l'exercice d'un pouvoir, c'est une façon de vivre, et la façon de vivre aujourd'hui n'est pas démocratique. Le régime dans lequel nous sommes est une république, type néolibéral, capitalisme sauvage, et de savoir, et c'est en même temps la mise en place d'un système, d'un régime, qui est une dictature qui, tout doucement, dans tous les points sensibles, les points de faiblesse du tissu social, puis gagnant peu à peu les classes moyennes, crée quelque chose de l'ordre d'une incrimination générale de tous les citoyens. Ce qu'on vient de nous dire sur les empreintes génétiques, ce que nous avons appris aujourd'hui sur le fait que la loi a été votée, c'est le fait, normalement, je crois savoir que du point de vue juridique, on doit d'abord faire la preuve qu'on est d'abord innocent, et qu'on doit faire la preuve qu'on est coupable. Aujourd'hui, tout le monde est incriminé, et on doit faire la preuve qu'on est innocent. qu'on est bien le fils de celui qu'on appelle papa, qu'on est bien le fils de celui de celle qu'on appelle maman, mais ça, c'est dans tous les domaines. Faire la preuve qu'on est bien le petit-fils, l'arrière-petit-fils de quelqu'un qui, etc. Moi, je suis née en Afrique du Nord, de parents étrangers. Après, je suis tout à fait française, j'ai fait mes études en France. J'ai une carte d'identité française, j'ai jamais eu. J'ai dû faire la preuve pour un changement dans mon état civil il n'y a pas très longtemps, faire la preuve de la nationalité et sur combien de générations dans ma famille. Et comme ben, mon père né dans un ghetto n'avait pas d'état civil et que ma mère, voilà, impossible. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il faut écrire à Nantes, enfin, c'est vrai. Je ne vous raconte pas. C'est le parcours du combattant. C'est absurde. Et tout ça, c'est chaque jour. Donc, je crois que entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir politique, en ce moment, il y a quelque chose qui est dans une dérive progressive. Et je me suis dit, mais comment je pourrais appeler cette dictature lente, cette mort lente du citoyen, cette mort lente de la liberté, cette mort lente organisée du monde de la création et du respect d'autrui et du plaisir de vivre ensemble, et des qualités de l'accueil, de l'hospitalité, etc. Comment je vais l'appeler? C'est vrai que le travail que je fais sur l'image depuis tant de temps m'a amené à déjà qualifier ce régime. Je l'avais appelé, de façon un peu cuisse peut-être, une iconocratie, c'est-à-dire une façon, un empire de la vision, un empire de la visibilité. Quand il y a eu la crise des intermittents, j'ai dit voilà, c'est enfin l'empire de la visibilité qui se met en place. On ne payera plus les gens quand ils ne sont pas visibles, mais on va les payer quand on les voit. Et donc, tout ce qui fait la grandeur du visible dans les œuvres, et qui tient justement à l'invisibilité qui la soutient, est disqualifié. Cette invisibilité qui est celle du travail, qui est celle des échecs, qui est celle du temps consacré à faire venir les choses au monde, qui est celle des interruptions, des suspens, des attentes, qui est toute celle que vous connaissez, des intermittents du spectacle, et même, je crois que tout créateur est un intermittent de la création, parce qu'il n'y a pas de permanent de la création. Ça n'existe pas. Simplement, ceux qui ont le pouvoir vont être des permanents du pouvoir, et ceux qui créent, sont les industriels de la visibilité, veulent qu'il y ait une permanence de la visibilité, de ce à quoi ils veulent que nous soyons les spectateurs. Donc il y a, on ne parle plus, Berlusconi déjà disait, non pas qu'il avait été élu par des citoyens, mais par un public, par son public, il avait été élu par mon public. C'est-à-dire, c'est la prise en otage du regard, la prise en otage des spectateurs, des citoyens devenus publics massifs, de quelque chose qui doit, de façon permanente, continue, leur être adressé, programmé, formaté. Et donc, c'est vrai que l'intervention à la télévision des intermittents sur le plateau de Starac a eu un effet symbolique, je dirais spectaculaire, mais en même temps me paraît demander une réflexion tous ensemble, hein, je suis là pas que pour parler, mais pour entendre, une vraie réflexion sur les méthodes de résistance aujourd'hui. De quelle façon, non seulement nous devons apprendre à qualifier la dictature qui nous menace, je vais l'appeler maintenant par commodité en m'en expliquant, une ploutocratie médiatique. Ploutocratie, c'est quoi? Ben, j'étais chez les Grecs qui ont inventé la démocratie. Le mot démocratie est devenu courant. Le mot ploutocratie, on l'a oublié. Et ben, il est qui est le mode sur lequel toute dictature est en dictature d'un fort sur un faible. Qu'est-ce qu'un faible aujourd'hui? C'est quelqu'un qui n'est d'abord pas riche. C'est quelqu'un qui est pauvre, à qui on refuse des droits, le droit de vivre, le droit de se loger, le droit de travailler. Voilà. C'est quelqu'un dont on organise la misère de façon, non pas à créer un état misérable, mais un régime de richesse. Et ce régime de richesse, qui est fondé sur l'impuissance des plus pauvres, organise l'imaginaire de cette société. Et en ce sens, si je dis cette plutocratie, elle est médiatique, c'est qu'on ne peut pas gagner sur un terrain aussi injuste et révoltant et scandaleux appliquer cette plutocratie, sans modifier, sans chercher à atteindre les forces vives de l'imaginaire collectif, sans toucher les modes de la vie, la façon de parler, la façon de se rencontrer, les choses que l'on voit, la façon de se raconter des histoires. Donc, toutes les fonctions, toutes les opérations imaginaires, tout ce qui, traditionnellement, on appelle des opérations symboliques, des opérations où c'est du sens qui passe et pas de l'argent, où ce qui s'échange, ce qui circule, c'est du sens, c'est des signes, et pas forcément que des choses et de l'argent, eh bien, porter atteinte à cette fonction-là est nécessaire pour que cette plutocratie, qui a besoin d'être médiatique, elle a besoin du spectacle de sa propre promotion, et elle a besoin de se créer le public, et donc le spectateur de son propre pouvoir, est une plutocratie médiatique. C'est pourquoi la question des intermittents était décisive, puisque eux étaient ceux qui font circuler entre nous les signes, les gestes, tout ce qui fait sens, non-sens, absurde, attente, liberté. Atteindre cela. Donc, je crois que essayer de nommer cette dictature pour ne plus retomber dans des, je dirais, un défaut historique énorme qui serait de dire, comme ceux qui disent que la dictature soviétique est la même que le nazisme, vous voyez, des espèces de facilités historiques qui sont désastreuses. Quand on veut analyser véritablement ce qui atteint la liberté et la dignité de chacun, là, je crois qu'aucun régime, ni soviétique, ni fasciste, ni nazi, ne nous donnera les clés de ce qui est en train de nous écraser, encore que l'écrasement reste un écrasement, et que donner la mort par la violence, créer la violence, ça, c'est toujours la violence. Mais je crois qu'il faut que nous apprenions à saisir, à être vigilants sur tous les signes qui vont nous aider à nommer ce qui est en train de nous faire perdre notre liberté, notre dignité, notre espoir, c'est-à-dire notre puissance d'action, notre capacité de résister. Si c'est ce pouvoir judiciaire en ce moment fléchit, comment on est arrivé à convaincre tous ces gens cultivés, ils ont fait des études, ils sont à des postes où ils ont des responsabilités. Ces responsabilités, forcément, leur ont fait rencontrer des problèmes éthiques, des problèmes moraux, nécessairement. On ne parle pas de crime et de peine sans être touché dans l'intimité de sa pensée. Comment ces gens sont-ils déjà modifiés chaque jour, au plus profond des mêmes? Et en ce sens, la télévision et les médias sont un instrument majeur de la désappropriation ou de la délitescence de l'imaginaire collectif. Nous n'imaginons plus que nous pouvons résister. Nous n'osons plus penser qu'on peut dire non. Nous n'osons plus. On a peur. Et cette peur est organisée parce que les plutocrates ont peur de nous. Et que la seule façon de se débarrasser de cette peur de nous, c'est de nous mettre, nous, dans une, ce que j'appelle maintenant la phobocratie. Le régner par la peur. Régner par la terreur et créer sous le signe de la sécurité ce qui va nous délivrer de la peur. La sécurité, c'est, vous savez, partout maintenant, on est, n'ayez pas peur. Le pape a dit ça, Robert Hossein en est ravi. Sur les églises, Jésus nous accompagne, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Le Pen avait d'ailleurs dit, mais pourquoi vous avez peur? N'ayez pas peur, c'est la façon terrifiante dont la sécurité s'impose dans ce que j'appelle une phobocratie. Un règne de la terreur qui est le mode sous lequel le monde de la richesse, des choses et du commerce est en train de se vider de sens et de nous dire que nous n'avons... C'est pas que nous n'existons pas, ils ont besoin de nous. Marx l'avait très bien analysé, si le prolétariat s'appelle prolétariat, c'est que sa prolification est nécessaire pour que le système continue. Donc on a besoin de gens pour consommer. Mais il faut des consommateurs. Il faut de plus en plus de consommateurs. Donc le spectateur est un consommateur. Alors, j'avais envie de dire que peut-être la démarche qu'ont eu les intermittents du spectacle n'a pas été libre de toute ambiguïté ni de tout piège. qu'en se trouvant sur un plateau de télévision, affrontant doublement la violence des émissions télévisées, la mise en scène du pouvoir telle qu'elle est organisée, avec ses coulisses de vigile et de violence. On le sait que derrière le spectacle, il y a des chiens de garde. C'est de quelle façon devons-nous... Moi, je trouve que c'est bien et ils ont été courageux de le faire. Mais simplement, se dire, est-ce que la situation de danger, de fragilité dans laquelle ils se sont mis aujourd'hui à travers ce procès, n'est pas l'occasion pour nous de réfléchir aux nouvelles formes de lutte. C'est-à-dire, comment allons-nous résister? Il est évident que chaque fois qu'on se pointera, comme vous nous l'avez expliqué, en donnant simplement un coup de coude à l'agent de la sécurité ou en lui reprenant violemment l'appareil photographique, voilà, on se retrouvera dans une situation juridique et dans un imbroglio face à un appareil qui déjà fléchit. Donc, je n'ai pas de remède, hein. Je dis que j'ai envie d'être ici pour vous entendre et faire des propositions pour réfléchir aux formes de résistance. Aux formes de résistance qui, à mon avis, on les a vues déjà naître au moment de la campagne du référendum, lorsque tout le pouvoir en réseau, en association, le web, Internet, les réunions, tout ce qui permet... Le tissu associatif est un mode de résistance.
Je suis Jérôme Martin, je fais partie d'Acteur Paris. Je voulais intervenir là parce que je suis avec intérêt tout ce qui a été dit, je suis arrivé un peu en retard. Il me semble qu'il y a des choses qui n'ont pas été assez développées ou qui ont été oubliées dans la question de simplement la répression. Alors, criminalisation ou pénalisation, enfin disons répression du monde social croissant. D'une part, dans les motifs pour lesquels on peut être puni quand on est acteur ou actrice du mouvement social. Il y a des choses qui tournent autour du délit de presse, par exemple, qui n'ont pas été mentionnées. La diffamation ou l'injure sont des choses qui sont super, super faciles à utiliser pour vous amener à la censure ou surtout à l'autocensure, enfin la peur de passer pour quelqu'un d'injurieux, quoi que ce soit, qui vous autocensure. Donc ça fait partie des motifs où, par exemple, Act Up, on a une plainte pour l'instant qui est en appel depuis la dernière. Il a été beaucoup question dans les interventions du pouvoir politique et du pouvoir judiciaire, de l'accroissement par le pouvoir politique de toutes les modalités de répression et ensuite de son utilisation par le système judiciaire. Mais il ne faudrait pas oublier que ce système judiciaire, des gens l'utilisent. Ce n'est pas forcément l'État qui utilise la justice contre le mouvement social. Dans le cas d'Act Up, depuis les 4 dernières années, il y a l'archevêque de Paris, une psychiatre, un laboratoire pharmaceutique, l'Élysée, le vendeur d'herbes miracle contre le sida, et j'en oublie un, qui ont porté plainte pour divers motifs à chaque fois. Au cours des 4-5 dernières années. Et ce qui était incroyable, c'est que Act Up Paris, donc l'association qui pratique la désobéissance civile pour lutter contre le sida, pendant très très longtemps, n'avait eu aucun problème avec la justice, à quelques exceptions près, quel que soit le type d'action que l'on menait, parce que justement, voilà, c'était la lutte contre le sida, qu'on sentait que médiatiquement, c'était pas possible de porter plainte contre une association qui se présentait comme association de malades. Donc les laboratoires pharmaceutiques que l'on zappait beaucoup ne portaient pas plainte. D'autres représentants ne portaient pas plainte. Les seules plaintes étaient venues d'une ORG et de la GRIF, donc vraiment des gens plutôt aux extrêmes, alors que ce n'était pas nos cibles directes. Si je dis ça, c'est que... on ne peut pas se contenter dans le cadre d'une réflexion de simplement parler d'un système politique qui évoluerait, d'un système judiciaire ou politique qui évoluerait. Il faut aussi voir les personnes qui sont en face de nous, nos ennemis, et nos ennemis sont un peu multiformes. Dans le cas d'Act Up, le fait que d'un coup on soit passé d'un truc sans répression à beaucoup de répression, c'est un truc qui m'interroge. Les deux dernières choses dans ce type de réflexion-là qu'il faut avoir, c'est, notamment pour les solutions, c'est d'une part essayer de penser aussi la justice, non pas uniquement comme une arme qu'on subirait, mais une arme qu'on pourrait utiliser. Vraiment, d'une manière ou d'une autre. Act Up a porté plainte contre Christian Vanès, député qui avait tenu des propos homophobes, pour tester la loi sur réprimant les délits homophobes là-dessus. Donc retourner un petit peu cette arme de temps en temps, c'est pas mal. Mais sinon, là, cette année, un géant pharmaceutique américain a porté plainte contre nous pour des raisons que enfin vous me faites confiance, on était dans le bon camp, on était dans ils ont été obligés de lever leur plainte au bout de 2 mois devant la levée de bouclier au niveau international, qui a permis de mobiliser non seulement le tissu associatif, mais en plus des scientifiques, des médecins, des chercheurs qui n'avaient absolument, enfin voilà, qui ne soutenaient jamais acteur. Et là, on a utilisé aussi la position de on porte plainte contre nous, etc., pour parler du fond du contenu. Et c'est donc le tout dernier truc, c'est. Je sais que par exemple, dans le cas du procès des cas de l'Astérax, c'est extrêmement difficile parce que le motif de la plainte est totalement déconnecté du fond de l'action. Mais un des moyens de lutter contre ça, c'est aussi de, à chaque fois, ramener les raisons de la désobéissance civile à ce pourquoi on lutte. Ne pas se laisser simplement enfermer dans un discours de « Ah mon Dieu, on nous réprime, ah mon Dieu, on nous frappe quand on veut agir », mais ramener aussi « ouais, on a fait ça, ok, on était plus ou moins aux limites de la loi, ou on était même contre la loi, mais on avait de bonnes raisons d'agir ». Enfin, et ramener tout ça aussi au fond de nos actions.
Je vous passe la parole. Ce que disait Marie-Josée tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé, comment on a petit à petit tous laissé grignoter tous ces droits. Souvenez-vous, il y a 5-6 ans, quand après les attentats, on a dit « Ah, maintenant, on va pouvoir fouiller les voitures dans la rue ». Eh bien, autour de moi, j'avais des gens de gauche, intelligents, plutôt combatifs et tout, qui disaient « Mais moi, je m'en fous, de toute façon, j'ai rien à cacher dans ma voiture ». C'était pas ça le problème. C'est ce qu'on est en train de débattre aujourd'hui. Donc, c'est ce grignotage.
Bon, je vais dire quelques mots pour le réseau Éducation sans frontières. Je reconnais des têtes ici parce que au moment du chaos social, on était un certain nombre à être dans le coup ensemble. Hein, il y a quelques années, je ne sais plus combien. Voilà. Bon, moi j'ai été très intéressé, tout ça, et le mot qui me reste, c'est peur. Peur. Parce qu'on vit avec des gens qui ont peur. Et il y a une trouille grandissante. Je sais pas, vous avez peut-être vu le petit film « Laissez-les grandir ici », qui dure 2 minutes et demie, qui a été fait sur le mode du film d'il y a 10 ans avec Madjigen Cissé. Et c'est des enfants qui parlent, et qui parlent de leur vie, et qui parlent beaucoup de la peur. Hein. Peur d'aller à l'école, peur d'être séparé des parents, peur d'être expulsé. Et c'est tout de même terrible, ça, de penser que dans un pays comme la France, une démocratie... En 2007, un pays tout de même relativement prospère, comme tu disais, il y a 2 gamines qui disent dans le film « Est-ce que c'est normal d'avoir peur quand on va à l'école ?» Voilà. Et cette peur, c'est une peur qui se traduit dans la rue, et notamment dans ce quartier. Hein. On fait depuis quelques mois, une fois par mois, un rassemblement en tirafle à la sortie du métro. Et au début, il y avait les gens du réseau. Et puis maintenant, il y a de plus en plus de monde. Et quand les flics viennent et font les mini-rafles, les honteuses mini-rafles quasi quotidiennes qui renvoient à des non moins souvenirs honteux, il y a des gens qui se mettent à protester et qui arrivent parfois à empêcher que la récolte soit aussi importante qu'ils le souhaitaient. Mais depuis un mois, depuis le mois d'août, Hortefeux a dit qu'il y aurait 125 000 interpellations qui devaient aboutir. Il y a un rapport de 1 sur 5 sur la réussite à 25 000 expulsions. Il y a vraiment une troupe de plus en plus grande chez les gens. Ils ont peur d'aller au boulot, ils ont peur de ne pas rentrer le soir. Et à juste titre, parce qu'on n'arrête pas d'être et dans les commissariats et dans les tribunaux à cause des interpellations qui ont lieu et des mises en centre de rétention. Alors, bon, nous, on a peur aussi, mais c'est pas la même peur. Hein. On se retrouve dans des situations que vous avez parfaitement décrites, notamment sur les infractions. La femme qui a été relaxée n'est pas trop jeune, hein, elle est plutôt même âgée. Madame Durupt, qui a été condamnée, qui était relaxée, et poursuivie à nouveau en appel. Mais je pense qu'il y en a d'autres. Il y a Florimond Guimard, instituteur à Marseille, et qui lui risque sa peau d'instite. Parce qu'il suivait les flics en bagnole au cours d'une tentative réussie d'empêcher une expulsion, et il est accusé de se servir de sa voiture comme d'une arme. Donc c'est grave. Hein. Ça veut dire que s'il est condamné pénalement, il sera révoqué. Bon, il y a François Auguste aussi, qui est conseiller général en Haute-Saône, je crois, communiste, qui est pour une intervention dans un aéronef, qui est intervenu, Khadija, qui est une militante de la PAIS, bon, et puis un certain nombre de noms d'autres qui sont dans ces situations. Je veux dire que c'est vrai que tout de même il y a des réactions, tout de même il y a des gens qui se bagarrent. Et comme il semble que ça s'accentue, parce que bon, il y a les maires qui se sont fait engueuler là et qui se sont menacés, il y a aussi les inspecteurs du travail qu'on essaie de mettre dans le coup pour déloger les clandestins, entre guillemets, alors qu'on relâche les gérants en général, mais on met les travailleurs clandestins, dits clandestins, on les met dans les centres de rétention. Bon, il y a toute une catégorie de personnel qui se trouve confronté à cette situation. Et vous avez peut-être vu hier le canard qui s'est passé en Alsace, c'est-à-dire une consigne qui est arrivée dans les écoles, envoyée par l'inspection académique, de demander s'il y avait des élèves sans papier. Alors, c'est un non-sens, il n'y a pas d'élèves sans papier, puisqu'ils sont mineurs, ils n'ont pas à avoir de papier. Mais enfin, on demandait de signaler. Alors, ils ont vite dit que c'était une bavure, une erreur, que ça n'aurait jamais dû se faire, mais enfin, il y a bien quelqu'un qui a pris la décision quelque part.
Il l'avait pris il y a quelques années avant déjà.
Oui, mais dans l'Oise, ça avait été fait, mais en fait, enquête faite, c'était une décision du recteur pour protéger les mômes. Voilà, et c'est vrai. Et c'était pas un truc flicard. Bon. Nous, ce qui nous pose question, c'est les syndicats de policiers. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, il y en a quelques-uns qui commencent à s'émouvoir. Mais enfin, bon, on était rue de Nancy, il y a quelques temps, devant un commissariat, une cinquantaine. Le commandant de police a fait sortir ses policiers pour bousculer toute la foule qui était là. Bon, c'était pas très grave, mais enfin, c'était pas nécessaire. Le lendemain, il y avait un autre commandant de police qui est sorti pour dire « Moi, je suis un policier républicain ». Ça veut dire qu'il y a des policiers républicains, puis d'autres qui sont moins républicains. Bon. Mais tout de même, si on accepte la part, comme dans tous les milieux, des sombres brutes bien racistes, mettons que l'ensemble des policiers soient des policiers républicains. Ils sont tout de même amenés à commettre actuellement des tâches qui constituent vraiment... On bafoue les principes qui sont les vraies valeurs de ce pays, c'est-à-dire la signature des grands textes sur les droits de l'homme, sur la Convention internationale des droits de l'enfant. Je rappellerai que le premier texte sur les gamins, sur la défense des gosses, c'est 1924 à Genève. Bon, ça fait un bail. Et je veux dire que ce qui se passe en ce moment avec le regroupement familial, qui est encore une fois accéléré, c'est vraiment, alors que c'est un droit constitutionnel, c'est une honte. Donc on s'oppose à ça. On s'oppose à ça. Et je pense qu'on va avoir des ennuis. Plus on n'est pas des héros. Hein. Personne parmi nous n'aspire à se retrouver en tôle. Mais c'est sûr que dans ce pays, il y a tout de même des enfants qui n'habitent plus avec leurs parents, qui sont hébergés. On ne dit pas où. On ne sait pas d'ailleurs tous. Il y a que ceux qui l'hébergent qui le savent. Qui fréquentent des établissements scolaires où leur accueil a été aménagé. Voilà, ça se passe, ça.
Jean-Baptiste Hérault, donc
militant de l'association Droit au Logement.
Et donc, sur la question de la répression, parce que je crois que c'est un petit peu ça le sujet. Sur la question de la... Nous, on constate, c'est un des volets de la répression, c'est qu'il y a des violences accrues du côté de la police, bon, qui se lâche un peu. Bon, je suppose que vous l'avez évoqué. Nous, on a réussi à faire condamner plusieurs fois des policiers, si vous voulez, pour violences illégitimes. Bon, vous voyez, c'est pas quelque chose qui est, comment dirais-je, inéluctable. A priori, la police ne peut pas utiliser la violence si elle n'est pas... Enfin, elle doit le faire en tout cas de façon équilibrée. Il y a un terme, bon. Violence légitime, bon. Donc, voilà, on a fait condamner. Comment on a fait condamner? Parce qu'on a réussi à avoir des preuves de la violence illégitime de la police. Bon. Donc comment on fait voir les preuves, les images, il faut filmer, et c'est comme ça que ça marche. Donc maintenant, c'est quand même toujours un peu difficile à réunir, il faut avoir l'image au bon moment, etc. Et avec nous, ils font attention, mais d'une certaine façon, ils nous respectent. Ils savent aussi que comme on en a fait condamner plusieurs d'entre eux, en tribunal correctionnel, et des hauts gradés, hein, je veux dire, des gros machins, avec plein de barrettes et tout, bon, ils font attention, disons, faut quand même faire attention avec le DAL. Alors, si vous voulez, nous, on pense que... Par contre, je constate qu'il y a une augmentation au travers des témoignages. Bon, rébellion à agent, violence à agent, etc. Et comme certains le disent assez justement, quand on se fait taper sur la gueule et qu'il y a des traces, on a toutes les chances de se retrouver en correctionnel pour violence à agent. Donc, il y a un problème. Alors, si vous voulez, a priori, nous, moi, je me disais que... Parce qu'un jour, on nous a passé un petit machin où on peut filmer sans être vu. Bon. Et je pense qu'il faudrait travailler là-dessus. Sur fliquons la police. Fliquons les flics. C'est-à-dire, enregistrons ce qu'ils disent, et les violences, la violence verbale, qui est aussi légitime, mais également la violence physique quand elle a lieu, qui est moins facile, je dirais, à surprendre. Mais en tout cas, je pense qu'il y a des choses à faire de ce côté-là. Parce que, de telle sorte à les obliger, je dirais, à éviter la violence verbale et physique illégitime. Voilà une proposition. Et je pense qu'on pourrait travailler, je crois que maintenant, du point de vue technique, on peut trouver, enfin, on doit pouvoir trouver du matériel, peut-être pas très cher, tout ça, mais bon, moi je suis pas spécialiste de la question, mais je crois que les techniques ont évolué de ce côté-là, et qu'on pourrait peut-être réfléchir à cette question. En tout cas, moi je suis prêt, parce que même dans nos actions, on a encore besoin de temps en temps de filmer sans être vu.
C'est extrêmement important. Réfléchir à tout ça et voir sous quelle forme nous pourrions, sans mourir, comme le Bartleby, face à quelque chose qui nous est imposé, dire « je préfère ne pas le faire » et que ça nous aide à vivre au lieu que ça nous amène à mourir. Voilà. Donc c'était un peu le sens de ma présence. Oh. Très rapidement, effectivement, ce qu'on voit, moi je trouve, c'est une dislocation totale des institutions. C'est pour ça que j'ai essayé de parler du judiciaire, parce que je trouve que c'est très très symbolique du fait qu'on n'a plus qu'une institution exécutive dans la République d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de pouvoir législatif, il n'y a plus de pouvoir judiciaire s'il n'a jamais existé. Et évidemment, c'est pas la presse, le quatrième pouvoir, qui y change quoi que ce soit, bien au contraire. Donc, on est dans une situation, je trouve, du point de vue institutionnel, qui est absolument extraordinaire, où on n'a plus qu'un exécutif. Et ce qui est étonnant, c'est que ça se combine avec le fait que cet exécutif ne cesse, évidemment, là aussi, De dissoudre le collectif, de dissoudre les solidarités, de dissoudre par la peur, effectivement, qu'il insuffle en permanence sur les questions d'insécurité notamment et sur les questions victimaires. Et ça pourrait faire l'objet vraiment d'une toute autre réflexion. Le fait que chacun, à l'image du président, se retrouve finalement dans une situation de victime, peut s'identifier à une éventuelle victime, puisqu'il reçoit systématiquement toutes les victimes de tout, entre les tempêtes en mer, les pédophiles, etc., etc. Et moi, je trouve que c'est ça qui est extrêmement inquiétant, et si on est là aujourd'hui, c'est à ça qu'il faut qu'on réfléchisse, c'est finalement comment unir ces luttes de résistance citoyenne. Parce que des luttes, il y en a, ça c'est clair. On a parlé donc aussi bien des fichiers que des intermittents, que des lycéens, que des banlieues, que d'ACTOP. On voit bien, enfin, les faucheurs volontaires, ça, il y a plein de luttes. Le problème, c'est que nous n'arrivons pas à faire le lien entre ces différentes luttes qui manifestent quand même la volonté de résister à ce qui se passe. Et c'est pas avec les politiques qu'on a, je crois, qu'on arrivera à faire le lien. Donc la question qui se pose, à mon avis, c'est comment lancer une sorte de lien entre ces différentes luttes qui existent. C'est, je pense, une question extrêmement politique. Hein.